Robert Surcouf, le roi des corsaires, par André Rezé. Il avait de qui tenir. Robert Surcouf de la Maison Neuve, capitaine de corsaires sous Louis XIV, était son arrière-grand-père. On trouve aussi dans les familles alliées à la sienne les noms de Porcon de la Barbinet et de Duguay-Trouin. Fils de Charles-Joseph-Ange Surcouf de Boisgris et de Rose-Jeanne-Julienne Truchot de la Chênaie, le futur corsaire naquit le 12 décembre 1773. Il reçut les prénoms de Robert et Charles. De bonne heure, tout comme Duguay-Clin, né d'ailleurs à quelques lieues de là, il se révéla bruyant, querelleur, organisant des batailles entre les garçons de son âge et y prenant la meilleure part. Le plus souvent, son clan triomphait. Dans le cas contraire, il acceptait mal sa défaite. La plus grande partie de son enfance se passa dans une propriété de ses parents à Terre-la-Bouët, près de Cancale. Allant à l'école, le jeune Robert passait de longs moments à contempler la baie merveilleuse où s'élevait la silhouette du Mont-Saint-Michel. Déjà, la mer le fascinait. Il avait trois frères et une sœur, Charles et Nicolas, ses aînés, Rose et Noël. Ses frères furent corsaires comme lui. Nicolas combattit vaillamment sous ses ordres. L'un d'eux, tombé aux mains des Anglais, s'évada deux fois. La première, grâce à la complicité d'une femme, la deuxième, dans un coffre de marin débarqué d'un ponton. C'est sans doute ce fait qu'elle donnait naissance à la légende de Robert Surcouf prisonnier, répandue par de fantaisistes historiens. La vie du célèbre marin a heureusement été contée avec exactitude par Garneret, son secrétaire, par M. Charles Cunat et aussi par M. Robert Surcouf, petit-fils de Noël Surcouf. Jamais le célèbre capitaine ne tomba au pouvoir de l'ennemi. L'enfance agitée et vagabonde de Robert inquiétait beaucoup ses parents. Sa mère désirait le voir entrer dans les ordres. Il y a là un curieux rapprochement à établir entre Surcouf et Duguay-Trouin. Ce n'est pas le seul. Ils commencèrent à naviguer encore enfant et tous deux se couvrirent de gloire. Mis au collège à Dinan, Robert s'y montra insubordonné, espiègle et assez mauvais élève. Un jour que son professeur le corrigeait, il le mordit à la cuisse, sauta par une fenêtre et s'évada. Des pêcheurs cancalais le recueillirent à demi-mort de froid et de faim. Il fut sérieusement malade. Lorsqu'il entra en convalescence, ses parents, qui l'aimaient tendrement, cédèrent à son vœu le plus cher en lui permettant de s'embarquer. Il avait 13 ans quand, le 3 août 1786, il quitta Saint-Malo à bord du brick Le Héron, qui cinglait pour Cadix. Le cabotage était une navigation trop modeste pour lui plaire. 3 ans plus tard, il partait en qualité de volontaire sur l'Aurore, faisant voile pour les Indes. Dès le cap de Bonne-Espérance, au cours d'une tempête, il se faisait remarquer par son énergie et ses qualités de marin. Dès lors, les officiers s'intéressèrent à lui. Il apprit beaucoup durant ce voyage, qui lui permit de voir l'île de France, Mozambique, les Indes, théâtre de ses futurs exploits. En 1790, il gagnait ses premiers galons, s'étant particulièrement distingué dans un naufrage où périrent de nombreux esclaves que son navire transportait. Au cours des années suivantes, naviguant à travers l'océan Indien dans des conditions difficiles, car l'Angleterre avait déclaré la guerre à la France, il acheva d'acquérir l'expérience de la mer. Sa réputation de marin était déjà bien établie, mais il nourrissait d'autres ambitions. Beaucoup de gens, à notre époque, confondent encore les corsaires avec les pirates des Antilles ou de la côte barbaresque, les flibustiers, les boucaniers, les compagnons du joyeux Roger, arborant à leurs cornes le noir pavillon à tête de mort. Jean Bart, Duguay-Trouin, Robert Surcouf n'ont rien de commun avec un Latrobe, lequel expia ses pirateries, éloigné du sol par une cravate de filin. Hommes de guerre, les corsaires affaiblissaient l'ennemi en capturant ses navires marchands. Ils ne craignaient pas d'affronter les unités de combat. N'étaient pas corsaires qui voulaient. Il fallait obtenir une lettre de marque ou commission d'armement en course, permettant d'attaquer les bâtiments ennemis. Le capitaine, qui en temps de guerre ne possédait qu'un congé de navigation, pouvait se défendre, mais n'avait pas le droit d'ouvrir le feu le premier. Tout particulièrement les Malouins étaient gens de guerre et à la mer des plus redoutés, comme dit Bertrand d'Argentré dans son Histoire de Bretagne. Comme tant de glorieux devanciers, dont il se sentait la bravoure et l'audace, Robert Surcouf rêvait donc de devenir corsaire à son tour. Il avait déjà fait le coup de feu contre l'Anglais, en qualité d'enseigne auxiliaire à bord de la Cybèle, au cours d'un combat livré devant l'île de France. Après de nombreuses difficultés, il se vit enfin offrir le commandement d'un petit voilier de 180 tonneaux, armé en course, le Modeste, qu'il rebaptisa l'Émilie. Mais au moment où il allait cingler pour les Seychelles, le gouverneur de l'île de France, aujourd'hui Maurice, M. Malartic, lui refusa une lettre de marque. C'était l'impossibilité d'attaquer les navires ennemis. Surcouf avait 22 ans. Ardent, fougueux et entêté, il essaya de fléchir le gouverneur, peine perdue. L'Émilie restait un navire armé en temps de guerre pour pouvoir se défendre le cas échéant. En somme, si on l'attaquait, Surcouf se trouvait à couvert. Il n'eut garde de se cacher, prenant seulement la précaution d'installer sur son pont et ses gaillards des pièces d'artillerie joliment bonnes pour la riposte et qui, jusque-là, avaient fait dans ses cales figure de lest. Aux îles Seychelles, il embarqua quelques hommes supplémentaires et le voilà sur l'océan, cherchant qui, le premier, le regardera de travers. Ce fut le Pingouin, bâtiment anglais chargé de bois, qui lui envoya un coup de semonce pour le contraindre à arborer ses couleurs. Mal lui en prit, car peu après, l'Émilie l'obligeait à amener les siennes. Surcouf venait de remporter, facilement d'ailleurs, son premier succès. Il n'allait pas tarder en accumuler d'autres. Coup sur coup, il capture le Russel, le Sambolas, chargé de riz, et les envoie à l'île de France, où la disette se fait sentir. Puis encore le Brick, le Cartier, sur lesquels il passe avec son équipage de 23 hommes, jugeant ce navire supérieur à l'Émilie. À l'abordage, il enlève la Diana, qui venait de quitter Calcutta avec 6000 balles de riz. Enfin, le voici face à face avec le Triton. Le Triton, superbe vaisseau anglais, portait 26 pièces de 12. 150 hommes d'équipage complétaient sa défense. Surcouf, son médecin compris, avait 19 hommes à son bord. « Voulez-vous acquérir la gloire et la fortune ? » demanda-t-il à ses matelots, « ou préférez-vous aller pourrir sur les pontons anglais ?»« Vaincre ou périr ?» hurla l'équipage. Surcouf, qui avait arboré les couleurs britanniques pour tromper l'ennemi, les amena brusquement et hissa le drapeau français en envoyant deux coups de canon à mitraille pour jeter le désarroi chez les Anglais. Alors, profitant de la surprise, il aborde le Triton et lance 6 de ses hommes sur la dunette de l'ennemi. Le vaisseau anglais dominait, comme un rempart, l'audacieux petit navire qu'il attaquait à la façon d'un mouchon. Déjà, Robert Surcouf avait bondi sur le pont de l'adversaire et fait feu sur le capitaine anglais qu'il tuait. Les canons du Triton font rage, mais les boulets passent au-dessus du Cartier, rangés bord à bord. La lutte se poursuit, acharnée, longtemps indécise. Avec une présence d'esprit admirable, Surcouf est partout, voit tout et vit 20 fois la défaite. Après 3 quarts d'heure d'un combat sans merci, les Anglais se soumettent. Le drapeau tricolore est hissé sur le Triton. Les corsaires, blessés, sanglants, mais ivres d'orgueil, chantent « Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé des filles de France. » Avant Surcouf, aucun homme de guerre français n'avait osé attaquer l'ennemi sur la côte du Bengale. Peu de temps après, le courrier de Madras, journal officiel, rendait hommage à la vaillance d'un jeune homme nommé Surcouf, qui traite ses prisonniers avec politesse et beaucoup d'humanité. Le corsaire malouin se servit de ses prisonniers pour un échange avec les marins français détenus sur les pontons d'Angleterre. Il regagna l'île de France à bord du Triton et y arriva le 10 mars 1796 à la stupéfaction générale. Un enthousiasme sans précédent l'accueillit. L'aventure se compliqua bientôt. Surcouf était parti sur l'Émilie sans lettre de marque. Le tribunal de commerce confisqua les prises du jeune corsaire et il fallut que le Breton va plaider sa cause à Paris pour obtenir enfin justice. Le directoire, ayant accueilli sa réclamation, en avait saisi le conseil des 500. Un décret du 17 Fructidor reconnut finalement ses droits. Surcouf, généreux, abandonna au trésor, dont les caisses étaient vides, les 2/3 de sa créance. Il toucha 660 000 livres sur les 1 700 000 livres qu'avait produites à l'île de France la vente de ses prises. Et, alors, il reprend la mer. Son frère aîné, Nicolas, navigue sous ses ordres. Il se couvre de gloire en main combat à bord de la Clarisse notamment. On les voit aux îles de la Sonde et sur cette côte du Bengale où le seul nom de Surcouf provoque la terreur. Les navires ennemis tombent sous les coups du hardi corsaire dont l'habileté est démoniaque. Sans perdre un seul homme, il s'empare de la Nostra Signora de la Concepción, dont la cargaison d'argent monnayé s'élève à 116 000 piastres. De l'Hospicius, chargé de riz et de sucre, dont la vente produit 1 032 580 francs. Échappe miraculeusement à la frégate anglaise la Sibylle, forte de 56 canons et de 622 hommes d'équipage. Pour y parvenir, il n'hésite pas à précipiter par-dessus bord 8 de ses meilleures pièces d'artillerie, allégeant ainsi son navire. Presque aussitôt, il affronte victorieusement 2 croiseurs américains, vaillamment secondés par son frère. Au cours de 2 croisières à bord de la Clarisse, ne s'est pas emparé de moins de 10 navires représentant plusieurs millions. C'est alors qu'il prend le commandement de la Confiance, navire d'une construction admirable, sorti des chantiers de Bordeaux. Il est à l'apogée de sa carrière. Sa réputation est incomparable. Sa popularité dépasse tout ce qui se peut imaginer. Tous les fins corsaires, tous les frères de la côte, veulent servir sous ses ordres. Voici le héros tel que l'a peint son secrétaire, Garneret, dans des mémoires bien oubliées aujourd'hui. Surcouf était un de ces hommes qui, enveloppés d'une écorce un peu rude, ne peuvent être devinés et compris à première vue. Ses manières rondes, aisées mais originales, exigeaient que l'observateur, pour pouvoir arriver jusqu'à comprendre son génie, commença d'abord par se familiariser avec sa nature. Au reste, bon et joyeux vivant s'il en fut jamais, il possédait une gaieté communicative dont on ne pouvait se défendre. Son esprit vif, actif et plein d'à-propos, ne lui faisait jamais défaut. À ce sujet, il importe de rappeler une réponse qu'il fit à un capitaine anglais. Ce dernier prétendait que les Français ne se battaient jamais que pour de l'argent, tandis que les Anglais ne combattaient que pour l'honneur et pour la gloire. « Eh bien, qu'est-ce que cela prouve ?» lui répondit le malouin, « sinon que nous combattons chacun pour acquérir ce qui nous manque ?» On voit que le fameux corsaire n'était pas seulement bon escrimeur, le sabre à la main. Pour engager la course sur la côte de Coromandel, Surcouf avait fait hisser à l'un des mâts de la Confiance l'ancien pavillon malouin, célèbre chez l'ennemi. 8 bâtiments tombaient en son pouvoir. En vain, les Anglais, maquillant la frégate Sibylle, essayèrent-ils de s'emparer par surprise du Breton détesté qu'ils ne pouvaient vaincre. Cependant, tous les croiseurs le cherchaient et sa situation devenait périlleuse. Il quitta les parages de Madras pour les brasses du Bengale. S'étant en cours de route emparé d'un navire, il fut agacé d'entendre le capitaine anglais lui déclarer que s'il avait su ne compter devant lui qu'un adversaire aussi faible, il eût gagné le combat. « Retournez donc à votre bord, » proposa le corsaire. « J'attendrai votre première bordée pour commander le feu. » L'anglais n'insista pas. Tout le caractère de Surcouf tient dans cette anecdote. Le roi des corsaires était à la veille de sa 2e grande victoire. Le 7 octobre 1800, il rencontra le Kent. C'était à peu de choses près l'affaire du Triton qui recommençait. Combattre au canon eût été courir à une défaite. Surcouf décida immédiatement l'abordage, exaltant la vaillance de ses hommes par l'une de ses allocutions qui lui étaient habituelles. Le corsaire attendit le moment propice à son poste de commandement. Il portait à la ceinture un sabre d'abordage, un poignard et 2 pistolets. Un nègre tenait derrière lui 2 fusils à 2 coups. Il transmettait ses ordres avec un porte-voix. C'est ainsi qu'il se prépara au fait d'armes qui allait resplendir sur toute sa carrière déjà si brillante. Le Kent, vaisseau de 1200 tonneaux de la Compagnie des Indes, possédait un effectif de 437 combattants et 38 pièces de gros calibre. Rivington, son capitaine, ne s'inquiéta guère de la présence d'un si petit navire ennemi tout près des bouches du Gange. Il reconnut un corsaire, mais ce corsaire lui semblait méprisable. Convoquant tout le monde sur le pont pour voir couler un bateau français, il ne se doutait guère qu'il ne commandait plus son beau bâtiment que pour peu d'instants. Garneret, qui prit part à l'action, en a décrit les moindres détails. Ce fut un combat prodigieux. Longtemps, Surcouf, dédaignant les boulets qui passaient sur son navire, manœuvra sans riposter pour aborder le vaisseau ennemi comme il le désirait. Il y parvint enfin et la bataille s'engagea. Elle fut ardente de part et d'autre, acharnée, sanglante. Les Anglais, décimés par les grenades lancées de la mâture de la confiance, par les gabiers entraînés à cet exercice, perdaient tous leurs officiers que visaient à coups de fusil des tireurs habiles. On se battait au sabre, au poignard, à la hache, à la pique. Quand le drapeau tricolore put être hissé sur le Kent, le pont de celui-ci était rouge. Les vainqueurs pillaient. Surcouf dut prendre des mesures sévères pour protéger les femmes qui se trouvaient à bord. L'une d'elles, princesse allemande, voyageait avec son mari, le général Saint-John. Il est curieux de noter que plus tard, ce général anglais devint l'ami de Surcouf et fut reçu par celui-ci dans sa propriété de Riencourt à Saint-Servan. La prise du Kent coûtait aux corsaires une vingtaine d'hommes. Les Anglais en avaient perdu 70. Et à la suite de cet exploit qui poussa la rage de l'ennemi à son paroxysme, une prime de 1 000 000 fut promise à qui livrerait Surcouf. Celui-ci se contenta d'en rire. Il échappa toutes les embûches et regagna la France. Les Malouins le reçurent avec un enthousiasme délirant. Le jour même de son retour, Robert Surcouf se présentait chez le père de celle que depuis 2 ans, il considérait comme sa fiancée, et le 28 mai 1801, il épousait à Saint-Malo Mademoiselle Blaise de Maisonneuve, fille d'un riche armateur. La paix d'Amiens terminait momentanément son rôle de corsaire, et il se consacra à l'armement. Il n'avait pas toutefois cessé de faire parler de lui. Quand une fois de plus, l'Angleterre et la France échangèrent des coups de canon, il ne put tenir en place. Il fit construire, d'après ses plans, le trois-mâts Le Revenant, qui portait, en figure de proue, un mort symbolique sortant de son linceul, fin navire de 18 canons, comptant 192 hommes d'équipage triés sur le volet, et Surcouf repartit. En vain, le général Bonaparte, au cours d'une entrevue émouvante, lui avait offert un grade tentant dans la marine de guerre. Le Malouin aimait trop l'indépendance et l'aventure. La croisière du Revenant fut glorieuse et profitable. Il faudrait le cadre d'un livre pour passer en revue tous les combats, toutes les victoires de Surcouf. Son frère Noël, qui servait sous ses ordres, ayant un jour une courte défaillance, Robert lui dit « Songe que tu es un Surcouf. Si tu faiblis, je te fais attacher au pied du grand mât, la face tournée vers l'ennemi. » Au retour, Napoléon créa le corsaire baron de l'Empire. Il l'avait déjà décoré de la croix de la Légion d'honneur. Surcouf resta toujours fidèle à l'empereur, auquel il vouait une admiration sans bornes. Colonel des gardes nationales de Saint-Malo et de Saint-Servan, il devint chef de Légion après les 100 jours. Son plus fameux exploit de terrien à cette époque, bien souvent cité, fut un duel, ou plutôt 11 duels successifs, avec des officiers prussiens qui, dans un café de Saint-Malo, avaient mal parlé de la France. Sur la grande grève, devant le fort royal, Surcouf défit 11 de ses adversaires. Il fit grâce au 12e, dont l'attitude se révélait lamentable. Le hardi marin avait cessé de naviguer à 36 ans. Il se révéla homme d'affaires remarquable et fut un armateur heureux. Sur la fin de sa vie, comblé d'honneur, jouissant d'une popularité unique, il aimait s'entretenir avec de vieux matelots, dont beaucoup s'étaient battus sous son commandement. C'est en revenant de voir un navire en construction qu'il se sentit malade pour la première fois. Il se fit transporter dans sa propriété de Riencourt à Saint-Servan. « Le feu est aux poudres, » disait-il. Il mourut à 54 ans, brave devant la mort, comme il l'avait toujours été. La douleur de ses concitoyens fut immense. On lui réserva de somptueuses obsèques. Son image de bronze se dresse à Saint-Malo, sur le quai, et de son sabre tendu, il semble encore entraîné à l'abordage tant de vaillants compagnons pour lesquels il fut un dieu. Ainsi s'achève Robert Surcouf, roi des corsaires, par André Roset.